Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées à 19h20, comment aider nos jeunes? Vaste question, financièrement, moralement, le constat est alarmant selon toutes les grandes études. Il y a une détresse immense chez les étudiants, notamment cours à distance, confinement dans des petits logements et surtout manque d'emplois et de revenus. Il n'y a plus de petits jobs. De nombreux élus réclament ainsi un revenu minimum pour les jeunes. Alors, bonne ou mauvaise idée? On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Julien Damon.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur la pauvreté des protections, de la protection sociale notamment. On en parle également avec Christian Saint-Etienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. On en parle également avec Marc de Basquiat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et président de l'association pour l'instauration du revenu d'existence. Et puis on entendra dans quelques instants le témoignage d'Antoine. Antoine qui est étudiant et qui nous racontera son quotidien. Il a aussi, vous le verrez et vous l'entendrez, du mal à s'en sortir. Peut-être un premier mot sur le constat, Julien Damon. C'est vrai que les chiffres sont affolants, on en parle régulièrement dans les journaux d'Europe Soir. Aujourd'hui, ce sont plus d'un million de jeunes qui sont en situation de grande pauvreté. Il y a donc urgence à agir.
Je pense qu'il y a en effet urgence à agir parce que le coronavirus fait des victimes sanitaires, ce sont les personnes âgées, et il fait des victimes économiques, ce sont les jeunes. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop catastrophiste. Un million de jeunes en situation de grande pauvreté, ce n'est pas simplement pour faire le malin, mais il faut savoir de quoi on parle en matière de pauvreté. Si on regarde ce qu'est la part des jeunes aujourd'hui sous un seuil de pauvreté à 1 000 euros par mois, pour une personne, vous avez un cinquième des jeunes, c'est vrai. Mais ça n'est pas du dénuement intégral pour un million de personnes. Vous avez des situations extrêmes,
mais ça s'ajoute à une détresse psychologique très importante, c'est-à-dire qu'il y a très peu de cours en présentiel, difficultés sociales avec le couvre-feu. 69% des étudiants sont en détresse psychologique et s'inquiètent pour leur santé. 30% ont des troubles anxieux et dépressifs. 22% ont des pensées suicidaires, selon l'Ipsos. Et le taux de décrochage explose. J'ai découvert le chiffre tout à l'heure, il atteint par exemple plus de 40% des étudiants en droit. Comment vous, Marc de Basquiat, vous qualifiez cette situation?
Cette situation est très difficile. Je connais évidemment, ne serait-ce que pas mes enfants, pas mal d'étudiants qui sont tous face à cette situation très particulière et que leurs parents aient les moyens de les aider financièrement ou pas, ça ne résout pas tellement la question. C'est qu'ils sont vraiment dans une grande détresse par absence de perspective et par absence de relations sociales. C'est un âge qui nécessite d'avoir des interactions de diverses natures qu'ils n'ont pas. Donc c'est très difficile, je dirais, psychologiquement. Ensuite, l'aspect monétaire, on le verra après. Mais...
Oui, mais c'est une donne aussi importante, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais il n'y a plus de petits jobs en ce moment. Et l'hôtellerie, la restauration, qui sont les jobs les plus importants, notamment quand on a besoin d'arrondir les fins de mois, quand on a un travail en parallèle de ses études, Christian Saint-Etienne, ça représente un manque à gagner énorme pour tous ces jeunes.
Alors, beaucoup d'étudiants ont des jobs qui les occupent 8 à 20 heures par semaine. Ce n'est pas d'ailleurs sans effet sur leurs études et leur capacité à mener des études approfondies. Mais vous l'avez dit vous-même en introduction, c'est la conjonction de l'isolement et de la perte de revenus. S'il n'y avait que la perte de revenus, comme l'a dit Julien, comme vous venez de le dire, Julien Damon. comme l'a dit Julien Damon, on pourrait probablement résoudre le problème assez vite. Je pense que la détresse, la pire aujourd'hui, c'est la détresse psychologique. À un âge où les étudiants, notamment de première année, sont en perte de repères parce qu'ils sortent du lycée où ils étaient extrêmement encadrés. Et puis, c'est quand même une affaire qui dure. Alors, je pense aussi que le gouvernement contribue à cette détresse en étant assez catastrophiste en permanence.
Oui, donc, les chiffres sont là quand même, sur les études de l'Ipsos.
Vous êtes en détresse, c'est parce que vous n'avez pas de perspective.
Oui.
Donc, si quand on met le couvre-feu à 18h, on dit dans la même seconde que de toute façon, on ne va pas couper à un nouvel internement collectif, ça ne redonne pas de la confiance. Donc, je pense qu'en fait, il faut tenir un autre discours. Je pense qu'il y a toutes les raisons de penser qu'il y aura une amélioration considérable à partir du printemps et qu'il faut anticiper cette amélioration.
Alors, on est en ligne, je le disais, avec Antoine. Bonsoir Antoine, vous êtes étudiant en double master 1 droit santé à l'université Jean Monnet à Saint-Etienne. Quel âge avez-vous, Antoine ?
J'ai 21 ans.
Vous avez 21 ans. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'est l'isolement avec toute la détresse psychologique qu'on vient d'évoquer qui va avec? Ou est-ce que c'est la baisse de revenus et votre situation financière? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus?
Je pense que c'est un sentiment assez général pour beaucoup d'étudiants, pas seulement pour moi, qui allie ces deux perceptions, la perception financière d'un côté et le côté, on va dire, psychologique et moral de l'autre.
Oui. Vous avez du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vrai, j'ai perdu du coup mon emploi assez récemment à cause de la crise du Covid-19 et c'est vrai que c'est compliqué financièrement de joindre les deux bouts, de pouvoir, on va dire, penser pleinement ses études sans avoir cet épée de Damoclès au-dessus de la tête.
C'était quoi cet emploi, sans être indiscret, Antoine?
C'était un emploi en temps partiel d'un peu plus de 20 heures dans une enseigne de prêt-à-porter française.
D'accord. Et vous avez été licencié ou c'est lié au Covid, j'imagine, à la crise?
Oui, c'est lié au Covid, mais assez indirectement. Bah, du coup, je suis étudiant en droit. Donc, le contrat était relativement peu légal. J'ai déménagé récemment, du coup, à Saint-Étienne pour une mobilité master. J'étais déjà dans cette enseigne quand j'étais à Dijon, à l'Université de Bourgogne. Ça se passait très bien. J'avais un CDI, j'y travaillais depuis 2 ans. J'ai réussi à obtenir un emploi, mais tout en démissionnant dans l'autre enseigne lyonnaise, j'ai réussi à avoir un CDD qui est qualifié de CDD d'essai. Bon, déjà, quand on a ce genre d'intitulé sur un contrat de travail, on émet des doutes. Et puis c'est-à-dire que voilà, après un mois, CDD d'essai, et l'arrivée du second confinement, mon contrat...
Vous habitez à Dijon, hein, c'est ce que vous dites, hein?
J'habitais à Dijon à l'époque.
Ouais. Combien vous avez, très concrètement, aujourd'hui, pour vivre?
Aujourd'hui, en tout pour vivre, j'ai environ 900 euros.
Et, au mois, pas par jour alors?
Au mois. Par jour.
Par jour, ça fait beaucoup. Vous m'avez fait peur.
Oui. Non, si seulement. Mais de reste à vivre, oui, si on calcule et qu'on divise par un mois de 30 jours, j'ai un reste à vivre qui équivaut à 4 euros.
4 euros. Bien. Vous restez avec nous, Antoine. On va marquer une première pause et on va se retrouver avec nos invités parce qu'on va parler de cette dimension financière, évidemment, et de cette proposition de nombreux élus d'instaurer un minimum pour les jeunes, une aide minimale pour les jeunes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du débat du Club des Idées à 19h30, et on s'intéresse à la jeunesse, les étudiants qui vont mal financièrement et moralement. C'est un constat partagé par tous. Alors, on va s'intéresser maintenant à la manière de les aider, notamment financièrement, avec cette proposition qui commence à se répandre, notamment chez les élus, de Rachida Dati à Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui milite notamment pour un minimum jeunesse. C'est indispensable, dit-il. Écoutez-le.
Ces jeunes qui rentrent dans la vie et qui rentrent, en fait, en commençant par la soupe populaire, qui ne peuvent plus aujourd'hui se loger dans de bonnes conditions, qui ne peuvent plus manger, qui sont isolés. Eh bien oui, dans les moments comme cela, il faut évoluer.
Alors, un revenu minimum pour les jeunes. Julien Damon, vous êtes sociologue. Est-ce que c'est une bonne idée?
Ça dépend une nouvelle fois du contenu que l'on donne à ce revenu minimum pour les jeunes. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que ça existe déjà. Il existe un dispositif qui s'appelle la garantie jeunesse, la garantie jeune, qui est valable pour une centaine de milliers de jeunes aujourd'hui, qui devrait passer à 200 000 jeunes, 500 euros par mois. Le grand débat, c'est de savoir s'il faut abaisser l'âge de l'éligibilité du RSA de 25 ans à 18 ans.
Mais il y a deux aspects. Il y a ce revenu minimum, et puis il y a l'abaissement effectivement du RSA à 18 ans contre 25 ans.
La meilleure solution, c'est d'abaisser le RSA à 18 ans.
On va en parler juste après. Marc de Basquiat, vous êtes favorable à l'instauration d'un revenu minimum? Simplement pour poser les choses, je rappelle les chiffres de ce qu'est aujourd'hui un budget étudiant, un budget jeune. Selon l'Ipsos, ce budget, il est de 637 euros en moyenne pour l'année 2019. Ce sont les derniers chiffres qui sont à notre disposition. Un budget alimentaire, c'est d'environ 200 euros par mois. Et on sait le prix des logements quand on habite dans des villes avec une tension importante, Lyon, Bordeaux, Paris, pour joindre les deux bouts, c'est très compliqué. Votre avis?
Alors l'avis, c'est que, en fait, nous avons un nombre important d'outils aujourd'hui qui s'adressent à cette zone des 18-25 ans.
Oui.
Nous avons des aides qui sont versées aux parents. Nous avons des aides qui sont versées aux jeunes. Nous avons des réductions fiscales pour les parents. Nous avons des dispositifs variés. J'en dénombre 20. Nous avons aujourd'hui 20 dispositifs d'aide monétaire par rapport à cette tranche des 18-25 ans,
oui,
qui s'adresse à différents âges, et ainsi de suite. Et quand on fait la somme de tout ça, effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de trous. Et plein de trous, c'est plein de cas particuliers, plein d'exceptions, plein de trucs. Il y a des aides aussi qui sont plutôt pour les parents riches, qui n'existent pas pour les parents pauvres. Donc on a quelque chose qui est tout à fait incohérent. Et donc l'idée d'un revenu universel pour les jeunes, c'est consiste à dire, les 20, on les supprime, et on dit maintenant, on va donner à chaque jeune de l'ordre de 500 euros par jeune.
Le principe du revenu universel...
Voilà. Et on dit dès 18 ans,
on donne 500 euros. Par Benoît Hamon et par un certain nombre de libéraux. C'est quoi la bonne chose pour ce revenu universel pour les jeunes?
C'est déjà, on s'assure qu'ils aient des aides au logement, c'est-à-dire qu'ils sont chez leurs parents, bah évidemment les parents les logent, mais s'ils ne sont pas chez les parents, il faut les aider à se loger, ça, c'est indispensable.
Et il y a déjà des aides au logement, mais elles sont...
Bien sûr, ça il faut conserver, ça c'est important.
Il faut les conserver.
Je dis qu'il faut les conserver, ça c'est extrêmement important. Il faut que les jeunes puissent être en situation d'autonomie physique, je dirais, de leur logement par rapport à leurs parents, ça c'est important. Et ensuite, un montant de 500 euros dès 18 ans à tous les jeunes, en supprimant toutes les aides qui sont transférées aux parents, un enfant, à 18 ans, ça devient un adulte. Donc il n'y a plus aucune raison de garder des aides pour les parents, aucune.
Est-ce que dans votre idée, dans votre proposition, ça s'ajoute aux éventuelles bourses que touchent les enfants boursiers?
On supprime.
On supprime.
Les bourses,
donc ça veut dire qu'au bout du bout, certains étudiants toucheront beaucoup moins.
Il y a des bourses pour critères sociaux. Et donc quelque part, la proposition de revenu universel, quelque part, est de même nature. Par contre, il y a des bourses au mérite, là c'est très différent. Là, dans le cadre d'une relation avec une institution, l'éducation, là, il y a une justification à conserver des bourses au mérite parce qu'il y a des situations particulières. Là, on conserve, bien sûr. Mais les bourses aux critères sociaux ont vocation à disparaître.
Christian Saint-Etienne, favorable ou non à l'idée d'une instauration d'un revenu minimum pour les jeunes?
Bon, je vais me faire des avis, mais je suis radicalement contre.
Ça m'aurait
aussi bien pour les jeunes que pour les adultes.
Oui, pourquoi?
Je suis... ici, on parle de... Je suis radicalement contre un revenu minimum universel donné à tout le monde, comme cela a été et comme cela est souvent proposé. D'abord, déjà, on vient d'en avoir une illustration. Si on fait un revenu universel... Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on supprime les aides au handicap? Est-ce qu'on garde ou on supprime les aides au logement? Ainsi de suite.
Ça, on se répond
beaucoup,
à ça, bien sûr.
Beaucoup de gens qui proposent ces mesures disent qu'on va garder toutes les aides. Par ailleurs, ce n'est pas une critique et on n'est pas là pour se battre, mais vous disiez à l'instant que vous garderiez les aides au logement tout
bien
en
sûr.
Ayant l'aide minimale.
Bien sûr.
Alors, il se trouve que moi, je suis prof d'université, que j'ai vu les choses de près. Donc, si vous voulez, dans un monde parfait, tout est possible. Mais dans le monde réel, donner un revenu à des étudiants qui ne se présentent même pas aux cours, qui ne viennent même pas au TD, qui ne passent même pas les examens, si vous voulez, si nous étions capables... de dire ce revenu, il est donné en contrepartie. Pardon ?
C'est peut-être à cause du professeur, ça. Non, je
blague, Christian Saint-Etienne. Non, non, je ne parle pas des miens, je parle de manière, de manière générale.
C'est un trait
de... Et donc, oui, mais la pique était amusante. Simplement, le point central, c'est que si, en France, on est incapable de faire ça. Moi, je me souviens, avant d'être dans le poste où je suis, j'étais dans une fac de province.
Oui.
L'idée de simplement vérifier que les étudiants boursiers étaient effectivement présents dans les TD ou dans les cours était inenvisageable. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, et je termine par là, je suis totalement favorable à une aide ponctuelle aussi longtemps qu'il y a le Covid. Parce que justement, et l'idée, c'est d'aider les jeunes qui avaient un emploi et qui ne l'ont plus.
Oui.
Donc, c'est une aide sous condition et temporaire. Mais une aide universelle et permanente, c'est une erreur à la fois sur le plan sociologique, mais aussi sur le plan philosophique.
Alors,
parce que ce n'est pas comme ça qu'on prépare les gens à la citoyenneté.
On est toujours en ligne avec Antoine, ce jeune étudiant qui nous a expliqué sa situation tout à l'heure. Quelle serait, dans un monde idéal, comme le disait Christian Saint-Etienne, mon cher Antoine, l'aide qui serait la plus pertinente à vos yeux en tant qu'étudiant?
D'après moi, un revenu universel a totalement sa place pour des jeunes étudiants, puisque quelque part, quand on défend des valeurs comme l'égalité des chances, il est nécessaire de la donner effectivement et quelque part contraindre financièrement des jeunes à travailler pendant la durée de leurs études. Et encore, j'ai eu la chance de ne pas avoir encore eu de redoublement ou de passer de rattrapage, mais je pense que je suis quand même une exception.
Quel est le poste de dépense le plus important pour vous dans votre vie quotidienne? C'est le logement?
Ah oui, tout à fait, oui, c'est le logement.
Oui. Et donc là, la réponse, c'est la construction publique de logements pour les étudiants.
Et vous bénéficiez, vous, d'APL, d'aide au logement, Antoine ?
Oui, absolument.
Oui, combien ?
Une valeur de 180 euros.
Pour un logement qui vous coûte combien par mois, à peu près ?
630.
630.
Et vous
donc,
savez
ça veut dire
que quand
vous avez
on a 500, créé...
500 euros de votre poche.
Vous savez que quand on a créé les APL, ça s'est traduit non pas par une baisse du coût du logement pour les étudiants, mais par une hausse des loyers quasiment euro pour euro.
Mais, pardon,
et donc, ça s'est transformé en aide aux personnes qui sont propriétaires des logements.
Juste sur ce point, Julien Damont, on connaît tous la condition aujourd'hui des étudiants. Il y a ceux qui ont de la chance parce qu'ils ont des parents qui les aident, et puis il y a les autres. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on a 200 euros, nous disait le jeune homme, d'APL, qu'on en a pour 500 euros de sa poche, qu'il faut en même temps suivre des études, dont on ne sait même pas si ça va déboucher sur un emploi au bout du bout, qu'on est dans une crise sanitaire qui n'en finit plus. Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, je pense d'abord que les étudiants ne sont pas les plus à plaindre. Grand suspense, grand froid dans le studio. Pourquoi ? C'est parce que les plus pauvres, ce ne sont pas les étudiants. Ce sont justement des jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, et qui sont dans une mouise encore plus noire.
On va en parler
ici sur les étudiants, pas forcément à juste titre. Deuxième chose, si on fait un revenu universel pour tous ces jeunes, à hauteur de 500 euros par mois, ça ne changera pas la vie de ceux qui sont déjà à 500 euros par mois et qui sont dans la mouise. Marc de Basquiat connaît ce contre-argument. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Moi, j'ai une proposition autre, neuve, parce que ces débats, on les a depuis une vingtaine d'années, c'est de faire, comme on a fait des prêts garantis pour les entreprises, à hauteur de dizaines ou de centaines de milliards d'euros, des prêts garantis par l'État, on fasse des prêts garantis pour ces jeunes. On peut leur prêter des sommes très consistantes.
C'est le système américain qui est obligé de rembourser. C'est comme les Américains qui sont obligés d'emprunter des sommes colossales pour payer leurs universités.
Oui, mais c'est un financement, là, les prêts qui sont débloqués aux États-Unis et qui ruinent les étudiants, pour les étudiants, seulement pour les étudiants, et pour payer des universités qui coûtent une fortune. En France, je le répète, les universités, d'ailleurs c'est un problème, ne coûtent rien. Et on fait un système de prêts contingents, c'est-à-dire qu'ils ne commenceraient à rembourser que lorsqu'ils atteignent un certain niveau de revenu. Ça change complètement la donne.
Proposition intéressante. On en parle dans quelques secondes et puis on parlera du RSA. Pourquoi le RSA n'existe pas pour les 18-25 ans ? Vous répondrez dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du débat du Club des Idées à 19h42 et jusqu'à 20h, vous l'avez compris, on s'intéresse aux étudiants qui sont en grande détresse aujourd'hui et aux jeunes, justement, aux jeunes qui ne sont pas forcément des étudiants et qui sont financièrement en difficulté. Je voudrais qu'on s'intéresse à une mesure dont on parle beaucoup en ce moment, l'ouverture au RSA pour les 18-25 ans. Pour l'instant, le gouvernement dit saignette. Écoutez Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.
Toujours non, parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail. Qu'on apporte des aides particulières aux jeunes qui sont les plus en difficulté. Oui, bien entendu, parce que nous, notre politique, c'est mettre l'argent là où cela permet à un jeune de trouver un emploi.
Alors moi, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi est-ce que quand on a 18 ans, on a le droit de cotiser, on a le droit de voter, on est responsable pénalement de nos actes, mais on n'a pas le droit au RSA ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit au RSA à partir de 18 ans ? Qui veut répondre ? Marc de Basquiat, vous êtes économiste.
Je ne répondrai pas à ça. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est une histoire ancienne. C'est quelque chose. C'est le fruit de conservatisme français qu'on connaît bien, qui fait qu'on garde des trucs anciens. C'est là je vous disais qu'il y a 20...
Donc vous seriez favorable à l'ouverture aux 18-25 ans du RSA ?
Non,
revenu minimum, ça
non,
j'ai compris.
Parce que regardez,
à
court terme, regardez. Nous avons des aides pour les parents. Nous avons des aides fiscales, des aides sociales. Nous avons 20 machins différents. Le gouvernement, évidemment, n'a pas envie de créer un 21e truc pour les jeunes, qui s'appellerait le RSA pour tous les jeunes, en plus du reste.
Oui, mais
ça n'a
les
aucun
jeunes
sens.
Qui ne sont pas étudiants, ils n'ont pas le droit à grand-chose, pardonnez-moi.
C'est le problème, c'est ça le problème. Donc il faudrait vraiment dire, ok, maintenant, on arrête les bêtises, les 20, une grande partie des 20, on les met de côté, et on met en place 500 euros pour tous les jeunes, de manière systématique. Ça ne coûterait pas très cher. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, il y a des exceptions dans tous les sens, ce ne serait pas très cher.
Bien, revenu minimum à ma gauche. Christian Saint-Etienne, qui est en face de moi, vous êtes économiste également. C'est vrai que quand on regarde ça de façon un peu détachée, c'est assez aberrant que les jeunes de 18-25 ans n'aient pas le droit au RSA. Pourquoi 25, pourquoi pas 18 ?
Parce que le RSA, de manière générale, devait être un revenu d'activité, c'est-à-dire qu'il devait accompagner le retour à l'activité.
Il y a un RSA socle, c'est oui, l'héritage oui, du RMI.
Mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on n'arrive jamais à réellement aller jusqu'au bout des choses, puisque dans le RMI, qui était un revenu minimum d'insertion, il y avait peut-être 3% d'insertion, dans le revenu minimum d'activité, il y a des aides complémentaires qui sont versées à ceux qui travaillent, mais pour le reste... Le retour en activité reste très faible.
Mais donc, ça veut dire la société accepte de laisser un individu de 23 ans sans aucun revenu.
Non, mais il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas présenter comme ça. C'est comme ça qu'on présente les choses depuis 50 ans dans notre pays. Donc, en fait, il faut partir des réalités sociales. Donc, comme l'a dit Julien Damon, être étudiant avec la perspective de gagner plus tard de l'argent, ce n'est pas du tout la même chose que d'être hors des études. Et dans les deux cas, quand on est en difficulté, pour notamment les 2 millions de jeunes qui sont ni en emploi ni en études, la question centrale, c'est pourquoi le système conduit à ce que chaque année, il y ait 80 000 jeunes sans formation et sans diplôme, qui sortent de...
Mais ça, c'est une réflexion de long terme, Christian.
Non, ce n'est pas une réflexion de long terme, puisque c'est une réflexion... Alors, on pourrait transformer votre remarque de long terme sur le long terme, parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'on le dit. Mais à un moment donné, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place... Des réformes structurelles sur l'éducation, le collège unique, l'école primaire. Je termine juste par là. Il y a des études récentes qui montrent que le niveau d'études à la fin du CE1 est prédictif à 80% de la réussite ou de l'échec à 18 ans.
D'accord, rendez-vous à 15 ans, c'est ça.
Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le paquet pour s'assurer que les enfants sachent lire, écrire et compter à la fin du CE1? Ça serait déjà une étape majeure pour réduire le nombre de nets.
Julien Damon, sociologue, même question, pour ou contre l'élargissement de ce RSA aux 18 ans, aux 18-25?
Je crois que la question se pose de manière... aigu aujourd'hui, mais que c'est un débat éternel. Alors, l'éternité commence en 1988, en réalité, lorsqu'on vote le RMI. Le RSA, aujourd'hui, c'est grossièrement le RMI, RSA socle, etc. Ceci a été balayé par l'histoire. À la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Michel Rocard, lorsqu'on crée le RSA, évoque le fait qu'il ne veut pas que les jeunes, je cite, viennent compter parmi... C'est du Rocard, les abonnés de l'assistance.
Oui. Et on est dans une situation différente. Il y a une crise sanitaire, il va y avoir un million de chômeurs.
Il faut bien distinguer par rapport à ce que va vous répondre Julien Damon. Les aides ponctuelles, et les aides permanentes. Voilà.
Julien Damon.
Mon sentiment, c'est qu'il faut innover. Si on se bagarre longuement encore sur la question du RSA, ça prendra 2 ans avant qu'il ne se passe rien. Voilà. Donc on peut faire tout à fait autrement. Et il y a d'autres possibilités, il y a d'autres idées en matière de soutien aux jeunes adultes, qui relèvent un peu d'ailleurs de la théorie du revenu universel, c'est des dotations en capital. Si vous donnez 500 euros par mois d'assistance à des gens, ça change leur perspective quotidienne. Ça change, c'est une expression qui a été employée par des économistes, ce qu'ils ont pour leur déjeuner ou leur dîner. Si vous leur faites une dotation en capital importante de 10 000, 20 000, 30 000 euros, vous changez complètement leur perspective dans la vie. Et pour les jeunes, il vaut mieux changer les perspectives dans la vie que d'assister.
C'est une réflexion, à plus long terme, qui peut entrer en application rapidement.
Mais ça peut entrer en application extrêmement
rapidement. Et moi, je vous parle aussi d'un rapport à l'équité. Pourquoi est-ce qu'à 25 ans, on a le droit à quelque chose, alors qu'à 18 ans, on est aussi responsable qu'à 25 ans?
Je ne vous ai pas donné la réponse. La réponse, c'est que dans le système social français, l'idée, elle est juste ou non, mais l'idée qui prévalait au fait qu'on n'a pas ouvert le RMI et puis ensuite le RSA au moins de 25 ans, c'est parce qu'on considère que c'est à la famille de s'en occuper. Est-ce juste? Est-ce bien? Ça a été le fondement de cette décision.
Alors, les choses ont un peu changé depuis, évidemment. Marc de Basquiat, pour revenir à l'idée qui est la vôtre, un revenu minimum, encore une fois, c'est bien, mais ça pourrait mettre, dans le meilleur des cas, des années à être mises en place. À court terme, que proposez-vous?
À court terme, il faut rentrer dans la logique de dire un jeune qui a 18 ans, c'est devenu un adulte. Et donc débrancher tous les systèmes actuels qui ont plein de trous. Il y a plein, ceux qui ne sont pas étudiants, ils n'ont pas de bourse. Ceux qui n'ont pas du tout boulot, ils n'ont rien du tout. Enfin, on a vraiment une complexité qui est sans nom. Ceux qui sont seuls dans leur famille, ils ne sont pas d'être familiers non plus. Il faut rebâtir le système en disant voilà, un jeune, c'est 500 euros, point final, plus des aides logements. C'est extrêmement simple en réalité. Débrancher une dizaine de mécanismes qui sont tous les plus compliqués les uns que les autres, c'est pas compliqué de les débrancher. Il faut une décision politique.
En tout cas, c'est vrai que tout le monde avait dit que c'est une proposition un peu farfelue il y a quelques années, et maintenant on observe que C'est sur Saint-Étienne. Je vous rassure, ça n'entrera pas en vigueur après.
Non, mais c'est pas ça.
Mais
c'est,
on voit qu'il y a plein de politiques qui s'en emparent.
Il y a deux façons d'aborder le sujet. Soit, alors, il y a deux problèmes. Je ne développe pas. Il y a deux problèmes. Des aides à court terme par rapport à un régime permanent. Donc là, on est tous d'accord pour des aides à court terme. L'autre sujet, c'est quand on met en place des systèmes comme ça, est-ce que c'est sous condition de ressources ou est-ce que c'est
universel,
généralisé
universel,
si vous faites un calcul très simple. D'abord, on a dit à 500 euros, si vous êtes étudiant à Lille ou à Paris, vous ne vivez pas. Donc, mais passons. Mais 500 euros par personne, ça fait 6 000 par an. Si vous avez, pour faire simple, un million de jeunes qui le reçoivent chaque année pendant 7 ans, hein, vous êtes à plus de 40 milliards. Oui, le budget de l'enseignement supérieur, il est à peine supérieur à 20 milliards. C'est-à-dire qu'on est prêt à mettre deux fois le budget de l'enseignement supérieur sur ces questions, plutôt que de rénover le système éducatif et d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants dans les facs. Donc le point pour moi important, c'est une action différenciée qui prenne en compte les capacités des jeunes et leur engagement dans leurs études.
Bien, merci à tous les trois. Je suis navré, on est contraint de s'arrêter. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et je tiens à remercier et à saluer Antoine qui était avec nous par téléphone ce jeune étudiant. On souhaite évidemment beaucoup de courage dans les mois qui viennent aux étudiants et aux jeunes qui rencontrent des difficultés particulières. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h50, dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. Et ce soir, on va revenir sur le scandale de l'Arc. C'était il y a 30 ans, à tout de suite.